le cours du torrent obliquait plus loin sur la gauche, dévié par un éperon rocheux, et il fut projeté, comme si le fleuve lui disait qu'il l'avait assez vu, sur une langue de sable qui s'était formée là, à l'abri des remous. Il y demeura un long moment, tandis que des ruisseaux bleus d'essence d'épices quittaient son corps pour se mêler au courant. La douleur faisait agir d'instinct son corps vermiforme qui fuyait le contact de l'eau. Toutes les truites l'avaient quitté, et il retrouvait un nouveau sens du toucher au moment où tout contact ne pouvait lui apporter que de la souffrance. Il ne voyait pas son corps, mais il sentait cette chose qui aurait été un ver des sables, rampé en se tordant pour s'éloigner de l'eau. Il leva alors les yeux, percevant ce qui l'entourait à travers un rideau de flammes où des ombres se formaient et se déformaient d'elles-mêmes. Il reconnut finalement l'endroit où il était. Le fleuve s'était débarrassé de lui au coude qu'il faisait juste avant de quitter à jamais le sarir. Tuono était derrière lui, et un peu plus bas, de l'autre côté du mur, se trouvaient les ruines du Siegtaber, l'ancien fief de Stilgar, l'endroit où étaient cachées toutes les pistes de l'étau. Exsudant des vapeurs bleues, son corps torturé se traînait bruyamment sur la rive, laissant derrière lui un long sillage bleu sur le sable et les amas de roches chaotiques. Il arriva ainsi dans une dépression humide qui faisait peut-être autrefois partie du territoire du siège. Il n'y avait plus là qu'une grotte peu profonde, bouchée à l'intérieur par un éboulis rocheux. Ses narines lui transmirent l'odeur de la roche humide, mais pas le moindre soupçon d'épices. De nouveaux bruits s'immiscèrent dans son agonie. Il se tourna dans l'espace étroit de la grotte et vit une corde qui pendait au-dessus de l'entrée. Une silhouette s'y laissa glisser. L'étau reconnut Neyla. Elle se laissa tomber à terre et s'accroupit, essayant de l'apercevoir dans l'ombre. Les flammes qui troublaient la vision de l'étau s'écartèrent pour laisser voir une seconde silhouette qui se laissait tomber à côté de Neyla, celle de Siona. Les deux femmes entrèrent dans la grotte et s'avancèrent en déplaçant bruyamment les galets sous leurs pas. Elles s'arrêtèrent à mi-chemin pour scruter le fond de la grotte. Une troisième silhouette se laissa tomber de la corde. Idaho. Il courut, fou de rage, pour se jeter sur Neyla en criant.
« Pourquoi l'avez-vous tué? Vous ne deviez pas tuer, Howie !»
Neyla l'envoya choir d'un revers décontracté, presque indifférent, de son avant-bras gauche. Elle pénétra plus avant dans la grotte et se mit à quatre pattes pour essayer de l'apercevoir.
« Monseigneur, vous êtes vivant ?»
Soudain, Idaho fut derrière elle et arracha le laser qu'elle portait à la hanche. Neyla se retourna, surprise au moment où il pointait l'arme et pressait la détente. La brûlure partit du sommet de la tête et coupa la truitesse en deux morceaux qui s'affaissèrent de chaque côté. Un crisse brillant glissa de l'uniforme enflammé et tinta sur les cailloux. Idaho ne le vit même pas. Le visage déformé par la rage, il s'acharnait sur les morceaux carbonisés de Neyla jusqu'à ce que toute la charge fût épuisée. Le rayon bleuté disparut. Seuls quelques fragments de tissu ou de chair noircie et fumant demeuraient sur la roche rougeoyante. Siona attendait de pouvoir s'approcher. Elle rampa jusqu'à lui et lui ôta le laser des mains. Idaho se ramassa pour bondir et elle se prépara à lutter, mais la rage du Gola était retombée.
« Pourquoi ? Pourquoi ? »
murmura-t-il.
« Ce qui est fait,
dit Siona. Ils se tournèrent ensemble vers le fond de la grotte où gisait l'étau. Celui-ci n'était même pas capable d'imaginer ce qu'il voyait. Il ne restait plus rien, il le savait, de la peau de truite argentée. Il devait présenter une indéfinissable surface grumeleuse où les cils de son épiderme disparu avaient laissé leurs empreintes profondes. Pour le reste, il ne pouvait que rendre leur regard à ces deux silhouettes qu'il observait à partir d'un univers pantelant de misère. Parmi les flammes de sa vision, il visionna comme une démone, et le nom de cette démone surgit naturellement à ses lèvres. Il le prononça d'une voix amplifiée par la grotte qui résonna beaucoup plus fort qu'il ne s'y attendait.
« Anmia !»
Siona fit un pas en avant tandis que Duncan Idaho se prenait la tête à deux mains.
« Regarde ce que tu as fait à mon pauvre Duncan !»
souffla Leto.
Il trouvera d'autres amours.
Comme sa voix était froide et cruelle, se dit Leto. Il entendait l'écho de ses propres fureurs de jeunesse.
Tu ne sais pas ce que c'est que d'aimer, murmura-t-il. As-tu jamais donné quoi que ce soit?
Il ne put que se tordre les mains avant d'ajouter
« Tout ce que j'ai donné, moi, par les dieux d'en bas, tout ce que j'ai donné !»
Elle rampa plus près, tendit la main vers lui, puis recula.
« Je suis la réalité, Siona. Regarde-moi. J'existe. Tu peux me toucher si tu l'oses. Allons, tends la main. Touche-moi !»
Lentement, elle allongea le bras vers ce qui avait été son premier segment, l'endroit où elle avait dormi dans le sarir. Sa main était teintée de bleu quand elle la retira.
« Tu m'as touché. Tu as senti le contact de mon corps, » lui dit Leto. « N'est-ce pas plus étrange que n'importe quoi d'autre dans cet univers ?»
Elle voulut tourner la tête.
« Non, ne te détourne pas. Regarde ce que tu as accompli, Siona. Comment se fait-il que tu puisses me toucher ?» Mais que tu ne puisses pas te toucher toi-même.
Elle s'enfuit en courant.
C'est en cela que nous sommes différents, poursuivit Leto. Tu es l'incarnation de Dieu. Tu es en compagnie du plus grand miracle de l'univers. Et pourtant tu refuses de le toucher ou de le voir ou de le sentir ou d'y croire.
L'esprit conscient de Leto sombra à ce moment-là dans un endroit environné de ténèbres. Un endroit où il crut entendre le chant d'insectes métalliques de ses imprimantes, enfermées dans leur caveau sans lumière. Il y avait dans cet endroit une absence complète de radiation, un non-être ixien qui en faisait un centre d'angoisse et d'aliénation spirituelle, parce qu'il n'avait aucune relation avec le reste de l'univers. Mais cette relation viendra. Il sentit que ces machines ixiennes s'étaient mises en marche, qu'elles enregistraient ses pensées sans avoir reçu aucun ordre de le faire.
Souvenez-vous de ce que j'ai accompli. Souvenez-vous de moi. Je redeviendrai innocent.
Les flammes de sa vision s'écartèrent pour lui montrer Idaho qui se tenait à l'endroit précédemment occupé par Siona. Plus loin, quelqu'un gesticulait, mais tout était brouillé.
Ah oui,
c'était Siona. Qui faisait des signaux pour transmettre ses instructions à quelqu'un qui était resté en haut du mur.
« Vous êtes encore vivant ?»
demanda Idaho. La voix de Leto lui parvint comme un râle.
« Qu'ils se dispersent, Duncan. Qu'ils courent se cacher où ils voudront, dans l'univers qu'ils choisiront.
Qu'est-ce que vous racontez ? J'aurais encore préféré la laisser vivre avec vous. »
« Laisser ?» Je n'ai rien laissé, moi.
Pourquoi avez-vous laissé mourir, Oui ? Gémit Idaho. Nous ne savions pas qu'elle était dans le chariot avec vous. La tête du Gola retomba en avant.
Tu seras récompensé,
fit Leto d'une voix rauque.
Mes truites te choisiront plutôt que Siona. Sois gentil avec elle, Duncan. C'est plus qu'une Adréide. Elle porte le germe de ta survie.
Leto sombra de nouveau dans ses souvenirs. Ce n'était plus à présent que des mythes fragiles, précairement maintenus dans sa conscience. Il sentait qu'il s'enfonçait peut-être dans une dimension temps qui, par sa seule existence, avait changé de passé. Mais il percevait des bruits et il lutta pour les interpréter. Quelqu'un qui rampe sur les cailloux. Le rideau de flammes s'écarta pour lui montrer Siona et Idaho, qui se tenaient la main comme deux enfants, pour se rassurer avant de s'aventurer dans un lieu inconnu.
« Mais comment peut-il vivre ainsi ?» chuchota Siona.
Leto attendit d'avoir la force de répondre.
« Je suis aidé par Hoé. Nous avons connu quelque chose que peu d'êtres ont connu. Nous étions unis par nos points forts plutôt que par nos faiblesses.
Et le résultat ? Ironisa Siona.
Parfaitement. Prie pour avoir la même fin, murmura Leto d'une voix sourde. Peut-être que l'épice t'en donnera le temps.
Où est toute l'épice ? Demanda Siona. dans les profondeurs du siège d'Aber. Duncan saura la retrouver. Tu connais l'endroit, Duncan. On l'appelle aujourd'hui Tabour. Les repères sont toujours là.
Pourquoi avez-vous fait ça ?
Chuchota Idaho.
C'est le présent que je vous fais à tous.
Plus personne ne pourra retrouver les descendants de Siona. L'oracle ne la voit pas.
Comment ?
Ils avaient réagi à l'unisson, en se penchant pour percevoir la voix faiblissante de l'Empereur Dieu.
Je vous fais le don d'une nouvelle sorte de temps. Sans parallèle, reprit Leto. Il sera toujours divergent, il n'y aura pas dans ces courbes de points de rencontre. Je vous fais le don du Sentier d'Or. Grâce à lui, vous ne connaîtrez plus jamais les convergences qui ont pu se produire dans votre passé.
La vision de Leto était de plus en plus brouillée par les flammes. La douleur s'estompait, mais il percevait toujours les odeurs et les bruits avec une terrible acuité. Siona et Idaho avaient une respiration courte et haletante. D'étranges sensations synesthétiques parvenaient à son esprit conscient. L'écho de membres et d'articulations qu'il savait ne plus posséder.
« Regardez !» s'écria Siona.
« On dirait qu'il se désagrège. » C'était la voix de Duncan Idaho.
« Non !»
dit Siona.
« Sa peau se transforme. Regardez, le vert !»
Leto sentait une nouvelle chaleur irradiée dans certaines parties de son corps. La douleur avait entièrement disparu.
« Quelles sont ces marques sur tout son corps ?» demanda Siona.
« Je pense que ce sont les truites qui les ont faites. Voyez la forme qu'elles ont. »
« Je suis ici pour démontrer que l'un de mes ancêtres avait tort, » dit Leto,
ou crut dire Leto, mais cela revenait au même en ce qui concernait les machines ixiennes qui composaient ses mémoires.
« Je suis né humain, mais je ne meurs pas humain. »«
Je ne peux pas voir ça !»
s'écria Siona. Leto l'entendit s'éloigner en courant sur les cailloux.
« Tu es encore là, Duncan ?»«
Oui. »
J'ai donc encore ma voix. Regarde-moi bien, Duncan. J'ai été une boulette de chair sanglante à l'intérieur d'une matrice humaine. Je n'étais pas plus gros qu'une cerise. Regarde-moi, te dis-je.
Je vous regarde, fit la voix du Gola à peine audible.
Tu t'attendais à trouver un géant, et tu as trouvé un gnome. À présent, tu commences à connaître les responsabilités qui résultent des actions. Que feras-tu de tes nouveaux pouvoirs, Duncan ?
Il y eut un long silence, puis la voix de Siona s'écria.
« Il ne faut pas l'écouter ! Il était fou !»«
Certainement, » dit Leto. « La folie dans la méthode, c'est ce qu'on appelle le génie. »«
Vous comprenez ce qu'il dit, Siona ?»
demanda Idaho.
Comme la voix du Gola était plaintive.
Elle comprend, murmura Leto.
Il est dans la nature de l'âme humaine d'avoir parfois à affronter une crise imprévue. C'est toujours comme ça chez les humains. Monéo avait fini par le comprendre aussi.
Je voudrais bien qu'il se dépêche de mourir, fit Siona.
Je suis le dieu fractionné, et vous voudriez me rendre entier, Duncan.
Je vais te dire une chose, Duncan.
De tous mes golas, tu es celui que j'approuve le plus.
Approuve !
Répéta Idaho en retrouvant une partie de sa fureur.
Il y a quelque chose de magique dans mon approbation, dit Leto. Tout est possible dans un univers de magie. C'est ta vie, pas la mienne, qui est dominée par la fatalité de l'oracle. Maintenant que tu t'aperçois de ces mystérieux caprices, tu voudrais me demander de les supprimer. Au contraire, j'ai toujours cherché à les accroître.
Les autres, à l'intérieur de l'étau, commençaient à réaffirmer leur présence. Sans la solidarité du groupe pour étayer son identité, il sentait que sa place dans cette collectivité lui échappait. Il se mettait à parler le langage des « si ».« Si seulement tu avais, si nous avions pu ». L'étau aurait voulu, d'un cri, les réduire au silence.
« Seuls les imbéciles préfèrent le passé !»
Il ne savait pas s'il l'avait hurlé ou seulement pensé. Le résultat fut un silence interne momentané, associé à un silence extérieur. Il sentit quelques fibres de son identité qui demeuraient intactes. Il fit pour parler un effort dont la réalité lui fut aussitôt confirmée, car il entendit Idaho qui disait « Regardez, on dirait qu'il cherche à nous dire quelque chose. »
« N'ayez pas peur des Ixiens, » murmura Leto.
Et sa propre voix lui parvint comme un filet prêt à se tarir.
« Ils peuvent fabriquer leurs machines, mais ils ne peuvent plus avoir recours à l'Arafel. » « Je le sais, j'y étais. »
Il retomba dans le silence. Il essayait de réunir ses forces, mais il sentait que l'énergie s'échappait de lui malgré ses efforts pour la retenir. De nouveau, la clameur intérieure s'éleva. Des voix criaient, se lamentaient.
« Arrêtez ces enfantillages »
cria-t-il, ou crut-il crier. Siona et Idaho n'entendirent qu'un râle sifflant. Quelques instants plus tard, Siona déclara
« Je crois qu'il est mort. »
Alors que tout le monde le croyait immortel, fit Idaho.
« Savez-vous ce que dit l'histoire orale ?»
demanda Siona.
« Celui qui veut l'immortalité doit renoncer à la forme. Ce qui a une forme est nécessairement périssable. Au-delà de la forme est l'informe, l'immortel. »
« Ça semble venir de lui, » accusa Idaho.
« Je crois que c'est bien le cas, » dit Siona.
« Que voulait-il dire à propos de vos descendants, qu'on ne pourra plus retrouver ?»«
Il a créé une nouvelle forme de mimétisme, une nouvelle sorte de protection de la race. Il savait qu'il avait réussi parce qu'il ne me voyait plus dans ses différents avenirs. »«
Qu'avez-vous de spécial ?»«
Je suis la nouvelle race des Atreides. » »«
Les Atreides ?»
répéta Idaho comme si c'était un nom maudit. Siona baissa les yeux vers la carcasse en décomposition de celui qui avait été Leto Atreide 2, et quelque chose en plus. Ce quelque chose était en train de fondre en fines volutes de vapeur bleue, fortement imprégnées de l'odeur du mélange. Des flaques de liquide bleu se formaient un peu plus bas dans les rochers. Les seuls vestiges solides de l'Empereur-Dieu avaient des formes vaguement humaines. Quelque chose de flasque baignant dans une mousse rosée, un morceau d'os strié de rouge qui peut-être avait contenu la forme des pommettes et d'une arcade sourcilière.
« Je suis différente, » déclara Siona. « Mais je suis tout de même ce qu'il était. »
Idaho demanda dans un souffle presque inaudible.
« Les ancêtres.
Tous les...
La multitude est là, mais je marche sans bruit parmi elles, et on ne me voit pas.
Les anciennes images ont disparu. Seule l'essence demeure pour éclairer son sentier d'or. Elle se tourna pour prendre la main froide du Gola dans la sienne. Lentement, elle le guida jusqu'à l'entrée de la grotte où ils apercevaient, à la lumière, le spectacle rassurant de la corde qui les attendait pour les remonter jusqu'au sommet du mur, où se trouvaient les frémen de musée apeurés. Piètre matériau pour bâtir un nouvel univers, se dit Siona. Mais il faudrait qu'elle s'en accommode. Quant à Idaho, il allait avoir besoin d'un peu de douceur et de séduction, d'une sollicitude qui, peut-être, n'exclurait pas l'amour. Quand elle se pencha vers le fleuve, à l'endroit où le flot émergeait du gouffre façonné par l'homme pour aller arroser les terres fertiles, elle remarqua le vent qui se levait au sud, chassant vers elle des nuées noires. Idaho retira sa main de celle de Siona, mais il paraissait maintenant beaucoup plus calme.
« La régulation du temps devient de plus en plus incertaine, » murmura-t-il. Monio pensait que c'était la faute de la guilde.
« Mon père se trompait rarement sur ces questions-là. Il faudra que tu t'occupes de ça. »
Idaho eut soudain en mémoire la vision des formes argentées quittant le corps de Leto pour plonger dans le fleuve.
Les truites.
« J'ai entendu ce que le ver a dit, » fit Siona. C'est toi que suivront les truitesses, pas moi. »
De nouveau, Idaho connut la tentation du Sié Inok.
Nous verrons bien, dit-il.
Puis il regarda Siona dans les yeux.
Que voulait-il dire à propos des Ixiens et de l'Arafel?
Tu n'as pas encore lu les mémoires en entier.
Je te montrerai quand nous serons à Tuono. Mais que signifie Arafel?
C'est le nuage qui obscurcit le jugement sacré. L'histoire est très ancienne. Tu trouveras tout cela dans les mémoires.